R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Vous m'entendez ? Donc avant de lire, je dois expliquer que vous allez entendre dans deux très brefs passages trois voix. L'une qui est la voix d'Odette, ma mère, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui prenait des notes, comme vous le voyez, dans les marges de romans qu'elle lisait. Vous allez entendre la voix de romans policiers, puisque des passages soulignés sont repris, et vous entendrez la mienne, mais je pense que vous n'aurez aucune difficulté à vous repérer. Odette écrit dans les marges de ses romans policiers. Où est le beurre ? Le trouverons-nous ? Pourquoi l'écran est noir ? L'écran est tout noir. L'écran toujours noir. Toujours noir l'écran jusqu'au soir. Il est toujours l'écran noir. L'écran toujours noir, longtemps, c'est vrai. Depuis si longtemps, emmurée en elle-même, Odette, et ne s'échange jamais entre la fille et la mère que des propos sans importance. Il y a de quoi être obsédée par ce point douloureux, irréparable, irrattrapable. Sauf que il y a un rayonnage garni de livres d'Odette dans la bibliothèque du bureau. Plusieurs dizaines de livres de poche, des policiers orange ou jaune collection le masque. La surprise viendra de là. La surprise, et pourra-t-on dire la rencontre ? La fille ouvre un premier livre, quand Mario reviendra. Mon anniversaire, 80 ans. Pas maintenant, vendredi 13 avril, 27 juin 2001. Il faut donc attendre 41 jours. Le premier livre, si on se fie à cette date, c'est qu'il n'y a guère moyen d'établir un ordre. Et mettre de l'ordre pour le moment, la tâche serait telle, il n'en est pas question. Un autre, chant funèbre pour un gitan. Ex Braya, de nouveau, et l'écriture manuscrite d'Odette, qui a recopié en gros sur la page intérieure de titre l'une des premières phrases du roman. Il se débattit coincé entre sa fatigue et son angoisse et l'a réajusté en prenant soin de raturer deux syllabes. En grosses lettres, elle est réécrit à l'emplacement du « il ». Elle se débat coincé entre sa fatigue et son angoisse. Vingt-trois romans, avec ces petits signes d'identité, une plume transperce l'orbite d'un masque noir, qui leur sont nécessaires pour se prévaloir d'accueillir les maîtres du roman policier, de l'aventure et du mystère. Sous une couverture souple, qui permet à Odette de distinguer ses livres de ceux de la bibliothèque. Oui, je peux écrire, ce n'est pas un livre cartonné. Orthographe étonnamment respectée, aucune faute, ni grammaticale, ni lexicale. Les rhumatismes raidissaient sa jambe gauche, moi la droite. Oui, blond, roux et un visage constellé de taches de sang, moche. Si vous croyez qu'il n'y a pas de quoi être nerveux à l'idée qu'on va mourir, c'est vrai. Je suis complètement déprimée, moi aussi. Je souffre de graves insomnies, oui, moi aussi. Pas sommeil, pas beaucoup, moi aussi. J'ai la faiblesse d'être bon catholique et de croire en Dieu. Pas moi.
Alors moi, je vais vous lire deux extraits. Le premier est issu de Réveiller l'aurore d'Émilie Hermant, où pour la première fois, le personnage d'Alice Rivière est apparu. Et donc sa mère également. Quand j'étais petite, ma mère venait m'embrasser dans mon lit Et soir après soir, je lui demandais si elle viendrait toujours m'embrasser comme ça pour la nuit. Et je ne sais plus ce qu'elle me répondait exactement, mais je sentais que c'était oui. Beaucoup plus tard, j'ai vu arriver les petits carnets sur lesquels elle notait tout ce qu'elle voulait ne pas oublier de nous dire, tous ses noms et toutes ses idées, ses listes quotidiennes, et j'ai cru qu'elle était en train de disparaître avec sa mémoire. Je l'ai vue tanguer et trébucher à chaque pas comme si elle n'appartenait plus à l'équilibre de ce monde, et j'ai cru qu'elle était en train de perdre sa stabilité, ma verticale. Je l'ai entendue trébucher dans l'amplitude même de sa voix, dans sa colère qui se déclenchait toute seule, et j'ai eu honte d'elle, mon drame, cette honte. Je la cherchais tout le temps, je ne la trouvais plus, et je croyais que c'était parce qu'elle était en train de disparaître. J'étais inconsolable. Un jour et une vie entière plus tard, j'ai fini par la voir. Elle était dans un grand magasin chic, marchant à quelques mètres de moi. Le décor a commencé à remuer sur son passage, un sillon s'est formé derrière ses pas comme la traîne d'une tornade. Les robes se sont rassemblées en tourbillonnant dans une belle fontaine de plumes, confettis, paillettes, pigments, mousseline et satin. Les étagères de verre se sont atomisées en dunes de sable fin comme du talc. Tout s'est mis à déraper si fort que je ne pouvais plus avancer, je ne voyais plus clair, je ne marchais plus droit. Je me suis assise sur le sable doux et j'ai regardé ma mère pulvériser le grand magasin chic. Les lustres faisaient des gerbes de glace pilée, les plantes vertes lançaient des pousses avides tout autour d'elles, les escalators ondulaient comme des tentacules, les yeux des vendeuses jaillissaient hors de leurs orbites dans un bruit de bouchons de champagne. Pendant ce temps, elle a continué à avancer, à danser, à me sourire, à m'engueuler. Elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais cessé d'apparaître. Elle n'a jamais cessé de devenir ma maman. Elle n'a jamais cessé d'arriver là où elle m'avait promis qu'elle serait. Elle se penche sur mon oreiller. Je suis en train de m'endormir, mais depuis le fond de mon puits, je la sens m'embrasser dans le cou et rester là un instant immobile après m'avoir donné son baiser à 1 centimètre ou 2 de mon oreille. Elle ne bouge pas. Et pendant une seconde qui s'étire, je sens toute cette tendresse se comprimer dans sa gorge. Elle s'éloigne un petit peu, elle rajuste mon drap, son visage reste suspendu au-dessus du mien encore quelques secondes, le temps que sa promesse tenue coule sur moi comme une source lente. Puis maintenant, je vais vous lire l'extrait de quelque chose que je suis en train de travailler maintenant. Mon roman Mutando pour lequel je suis en résidence ici, où il s'agit aussi de Anouk, la mère d'Alice Rivière, ma mère, qui cette fois à présent vit dans une maison de retraite médicalisée et qui, au moment où j'écris ces lignes, vient de se casser 3 côtes. Nous trois lui posons des tonnes de questions, ultra inquiètes. La routine sereine qui s'était progressivement établie autour de cette nouvelle situation de notre famille, maman vit désormais en maison de retraite, d'un coup compromise. Quoi ? Tombée ? Comment ? Où ? Et alors, que s'est-il passé ? Elle raconte sans prendre grand plaisir au récit laconique. Glissée, s'est réveillée par terre. Nous, et alors quoi ? Qui ? Comment ? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Ben, j'ai rampé jusqu'au téléphone. Rambo dans la boue de la jungle qui avance centimètre après centimètre, évitant les taches de clair de lune, maman a rampé. Et j'ai appuyé sur le bouton jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Maman ayant bravé tout le parcours du combattant de sa chambre comme un GI parvenu jusqu'au téléphone rouge dont la ligne directe avec le président a le pouvoir de déclencher comme d'empêcher les guerres, son doigt planté sur ce bouton pendant des heures, pendant l'éternité s'il le faut, tout le Val-de-Marne peut s'écrouler, son index ne bougera pas. Nos regards se touchent d'abord banalement, juste comme ça. Comme quand on parle à quelqu'un et puis quelques secondes plus tard, peut-être parce que sans le faire exprès, je suis en train de la contempler plus que de la regarder, tandis que je lui dis au revoir, à la semaine prochaine, on s'appelle. N'oublie pas de prendre tes pilules de prêle pour la reminéralisation de tes nonos cassés. On sourit vaguement à cause de ce mot de nonos qu'elle utilisait elle-même pour évoquer l'os du gigot, dont elle a toujours raffolé au point de se relever la nuit pour y retourner. Je réalise soudain la délicatesse de ses traits et en même temps quelque chose qui n'est, contrairement à ce que pourraient laisser penser les circonstances, pas du tout vulnérable. Son regard répond à mon regard qui s'est mis à la contempler, et je crois qu'à ce moment-là, elle se met à contempler ma contemplation tranquillement. Et tandis que son visage s'étale sous le mien, dans un renversement en tout point symétrique d'avec une scène que j'ai décrite dans Réveiller l'aurore, je pense, me voici. Naguère, c'était elle qui me bordait. Et là, c'est moi, oui. Mais pas comme si c'était mon enfant ou je ne sais quoi, non. C'est maman, plus que jamais. Maman qui continue d'honorer sa promesse de présence, d'amour inconditionnel et puis de protection.
Donc, la lecture d'Alice me force presque à rentrer assez directement dans le vif du sujet, ce qui, en premier lieu, rassemble vos deux livres, enfin, ce livre-ci et certains d'Alice, notamment Anouk, qui est ici, qui est le premier portrait Ding Dang Dong qui a été publié par l'Institut du même nom. C'est ce rapport mère-fille qui... engage quelque chose de particulier dans le cas d'une maladie génétiquement transmissible comme pour Alice, ou dans le cas de ce rapport finalement de transmission inversée qu'engage la maladie d'Alzheimer. Et ma première question serait comment justement l'irruption de ce type d'événement en fait dans la vie de quelqu'un et dans une famille engage finalement un autre rapport à l'écriture, puisque je sais que ça a changé beaucoup de choses pour Alice dans son rapport à l'écriture, parce qu'elle était tu écrivais avant, en fait, avant l'apparition de cette planète, comme tu l'appelles, et pour vous aussi, dans la mesure où vous avez dû trouver vraiment une forme particulière pour dire quelque chose de tout cela.
Oui, moi je tâtonnais pour écrire, hein. J'écrivais d'autres choses, plutôt la littérature grise, mais je cherchais beaucoup en écrivant. Et du coup, quand c'est arrivé, quand c'est vrai que l'histoire de Huntington, donc cette maladie qui est vraiment une étrangeté, qui est une maladie très rare, fait partie des familles de maladies neurodégénératives, mais qui a la particularité d'engager dans une métamorphose corps et âme, c'est vraiment à la fois la manière dont on bouge, dont on marche, dont on est dans son corps, et puis dont on pense, et puis dont on parle, et puis voilà, vraiment c'est quelque chose qui entraîne l'être dans une métamorphose assez spectaculaire. Cette étrangeté donc qui est arrivée à ma mère et qui est donc qu'il avait attrapé, si je peux dire, par son propre père, quand c'est arrivé et que à ce moment-là, du coup, moi, ça se posait la question de savoir si mes sœurs et moi nous étions aussi touchés, parce qu'elle est très héréditaire, cette maladie. Elle se transmet sans sauter de génération, d'une génération à l'autre, avec 50% de probabilité qu'on l'ait. Oui, moi, pour absorber tout ça et pour comprendre ce qui se passait, je me suis mise à écrire beaucoup plus. Et au départ, j'ai pensé, ça ne m'intéresse pas du tout Huntington, je trouve que c'est trop moche. J'avais pris connaissance de cette maladie par ce qui en était dit sur Internet ou par ce que disaient les médecins, et c'était à la fois très laid et considérablement effrayant. C'était, en gros, comme c'est incurable, il n'y a rien à faire, c'est la pire des maladies, etc. Et donc, au départ, je me suis dit, c'est hors de question que j'en fasse un sujet d'écriture. Hein. Vraiment, c'est trop laid, ça ne m'intéresse pas, c'est comme l'antisémitisme, c'est un problème de goy. Ben moi, Huntington, ce n'est pas mon problème. Et en même temps, j'ai énormément écrit pour essayer d'absorber quand même ce qui se passait. Et au fur et à mesure, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai pivoté totalement, mais ça a pris du temps. Et je me suis mise à être obsédée par Huntington. C'est devenu ma muse principale d'écriture, cette planète relativement inconnue. et dont, là, pour moi, évidemment, l'héroïne absolue, c'est ma mère, puisqu'elle est encore vivante, ce qui est déjà incroyable, parce que c'est une maladie où on peut mourir elle a 72 ans, donc c'est super qu'elle soit non seulement encore vivante, mais qu'on puisse se parler. Et donc, c'est mon héroïne principale, ma muse, et aussi parce que, quand je l'observe, je travaille aussi à ce qui va m'arriver, puisque je suis moi-même porteuse du gène en question, et donc c'est une observation qui a ce poids-là aussi. Je travaille à apprivoiser ce devenir par son intermédiaire, entre autres, parce que je m'intéresse à plein d'autres personnes aussi avec la maladie, mais c'est mon laboratoire numéro un, dans le sens joli du mot laboratoire, mon observatoire, quoi. Et elle est devant moi, et elle a le pouvoir de rendre la situation habitable ou inhabitable, et moi j'ai le pouvoir de regarder cette situation de telle manière à ce qu'elle devienne insupportable ou supportable. Enfin, on est dans la co-construction, elle et moi, de quelque chose.
Oui, et moi, comme lectrice d'Alice Emily, enfin, j'ai le pouvoir de lire des romans où je vois les choses beaucoup changer. Enfin, le choc de l'annonce du passage du test, et ensuite de la façon de regarder les choses, regarder la maladie, et je vois vraiment une évolution qui se fait. C'est passionnant de suivre ça, vraiment. Comme Alice, j'écrivais avant, pas du tout. J'écrivais de la poésie. J'ai écrit des romans érotiques. Enfin, j'ai vu ma grand-mère atteinte d'Alzheimer, j'ai vu ma mère atteinte d'Alzheimer, et jamais, à un seul moment, j'ai pensé que j'écrirais sur la maladie d'Alzheimer, de témoignages ou de biographies. Je pense qu'énormément de choses ont été écrites sur le sujet, que ça n'aurait rien apporté que je fasse ça. Et puis, comme vous l'avez peut-être compris avec ce qui a été projeté, après le décès de ma mère, Odette, en vidant sa bibliothèque, j'ai découvert des romans policiers. Et j'étais extrêmement stupéfaite et troublée de découvrir qu'à l'intérieur de sa maladie, elle écrivait dans les marges de ses romans une forme de journal avec des mots extrêmement pauvres, puisqu'elle n'avait plus accès qu'à un vocabulaire très limité et très répétitif, où elle disait ses plaintes et ses douleurs. Mais surtout qu'elle soulignait des phrases dans les romans, et que dans les phrases soulignées, là, il y avait une prescience de la maladie qui était fort probable, parce que ce n'était pas n'importe quoi qui était souligné. Et beaucoup plus étonnant, qu'elle répondait aux questions qui étaient posées ou aux remarques que faisaient les personnages dans le livre. Voilà, donc ça a démarré par ça, et j'ai eu l'impression que je tombais sur un trésor extraordinaire, que j'avais l'équivalent d'un IRM passé à un cerveau d'une malade d'Alzheimer, mais qui là était écrit, était compréhensible, et n'était pas seulement un diagnostic médical, mais vraiment une porte ouverte sur l'intérieur de ce que peut vivre un malade. Et là, ça a été très compliqué, parce que j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose de précieux et important, mais il fallait réussir à le transmettre. J'ai fait plusieurs essais. Dans le premier essai, je me suis contentée de recopier à la suite ce qui était souligné ou ce qui était écrit, un document brut, et je l'ai donné à une comédienne, Hélène Vincent, qui l'a lu au théâtre. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. J'étais extrêmement insatisfaite de ça. Je pensais que quelque chose manquait, mais je ne savais pas quoi. Enfin, on voyait bien la maladie, mais pour moi, c'était une énorme déception. Pas quant au talent de la comédienne, évidemment, non. Une seconde fois, des extraits de ces passages, enfin, écrits par ma mère, ont été intégrés dans une pièce qui tournait autour du thème de l'Alzheimer et qui a été jouée au rond-point des Champs-Élysées. Et là, à nouveau, je suis tombée sur une déception énorme. Enfin, je voyais la maladie, je ne voyais pas ma mère. Évidemment, ma mère n'allait pas revenir, mais quelque chose n'allait pas. Et entre le premier essai puis ce livre, 12 années se sont passées. Et puis, il y a un moment où j'ai complètement compris ce qui manquait. Et quand je l'ai compris, ça a été un espèce de basculement. Et là, j'ai pu écrire ce livre. C'est-à-dire, j'ai compris que jusque-là, c'était la maladie qui était montrée, rien d'autre. Et qu'en fait, en ayant trouvé à écrire à l'intérieur de ces livres, ma mère avait réussi à communiquer, à s'exprimer. En ayant réussi à souligner des passages dans des romans, elle avait réussi à dire ce qu'elle voulait dire, mais qu'elle n'avait plus les paroles pour dire. Et surtout, qu'en répondant aux questions d'Hercule Poirot, ou d'Imogène, ou de Miss Marple, aux questions des détectives, elle avait réussi à entrer en société avec des amis de toujours, qui étaient des amis des romans, qu'elle connaissait de longue date. Donc elle avait réussi à échanger avec eux sur des points extrêmement simples. Quelquefois, la question était « Voulez-vous du thé ?» Elle répondait « Non, non, j'aime pas le thé, le thé c'est moche. » Enfin bon, voilà. Mais elle avait réussi à entrer en société, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était une trouvaille géniale. Et à partir du moment où j'ai pu la voir, non seulement comme une malade, mais quelqu'un qui inventait, et qui inventait avec de pauvres moyens et un cerveau très limité, quelque chose de très intelligent et très intéressant, alors là, j'ai pu aborder le livre.
Mais justement, il y a, en termes de, pas de dispositif, mais de modèle un peu herméneutique, c'est-à-dire là, ce que vous allez mettre en place pour chercher quelque chose, de chaque côté, c'est de l'ordre de l'enquête. Donc Alice, avec la façon dont tu nommes, en fait, on travaille ici une enquête existentialo-scientifique sur la maladie de Huntington. Et vous, Geneviève, de par le fait que ces inserts et cette espèce de jeu de piste que vous reconstituez par les termes soulignés, par les phrases, par ce jeu de questions-réponses, ces interrogatoires, prennent place dans un genre romanesque qui est le roman policier, qui sont des romans d'enquête. Et ça me semble en fait assez intéressant, ce processus de vouloir élucider quelque chose. Et je ne sais pas ce que chacune de votre côté, vous voulez élucider par ce protocole.
Ben, plusieurs choses. D'abord, le mystère absolu qu'incarne, en tout cas pour moi, je pense que c'était aussi une chose pour Geneviève, la métamorphose de son proche qui se met à fonctionner et à avoir une présence qui nous échappe et qu'on a vraiment du mal à comprendre. Donc il y a là vraiment, moi je trouve, de l'ordre de l'abord d'un mystère avec tout le sens que peut revêtir ce mot-là. Et du coup, c'est déjà comment aborder cette énigme-là, de la transformation, de la compréhension, aussi parfois basique, parce que c'est des maladies où l'expression est très altérée au bout d'un moment, et on peut même parfois quasiment pas se comprendre. Donc mettre en place des capteurs pour essayer de comprendre où est la personne, comment elle est, etc., ça demande aussi une inventivité. Et ce que je trouve très important dans ce que a dit Geneviève, c'est qu'au fond, quand on fait le pari que de l'autre côté il y a quelqu'un, non seulement, et puis il y a de l'inventivité à l'œuvre aussi, il y a un cercle vertueux d'inventivité qui se met aussi en branle, et on voit très vite les effets de ça dans la façon dont on va pouvoir du coup se comprendre et recevoir des messages. C'est le faire le pari qu'il y a au fond des choses à découvrir, et que c'est comme si on était face à... Moi, j'ai toujours cette image de la planète en partie inconnue. Il y a un peuplement, il y a de la consistance, même là où on dit circuler, il n'y a rien à voir. Ben, si, il y a tout à voir, mais encore faut-il aller fureter par mille et une manières. Et pas seulement en disant bonjour, comment allez-vous, dites-moi ce que vous ressentez. Parce que ça, c'est la meilleure manière pour avoir des réponses absolument inintéressantes. Donc il faut inventer aussi tout le protocole, en effet, de captation, et faire que, comme dans le cas de l'interlocutrice, une rencontre avec cette personne, une rencontre digne de ce nom, puisse avoir lieu.
Mais justement, en fait, on a le résultat de l'enquête, c'est ce livre dont vous voyez défiler des images. Et peut-être que tu pourrais en dire un petit peu plus sur justement comment d'une phénoménologie, en fait, dans laquelle vit Anouk, où des phénomènes en fait adviennent, que tu peux observer, mais finalement de l'extérieur, comment est-ce que tu fais une sorte de méthodologie pour justement non pas percer ces phénomènes à jour, non plus que les élucider, mais produire quelque chose qui est de l'ordre du savoir, ce qui est vraiment le cas dans ce portrait, avec quelque chose qui passe à la fois par l'image. C'est un petit peu des scènes, en fait, des scènes de la vie quotidienne, en quelque sorte, ou des sortes de reconstitutions pour garder le vocabulaire de l'enquête. Ces textes qui sont des tentatives, on va dire, d'approche, qui ne sont pas du tout de l'ordre du procès-verbal, en fait. C'est pas par rapport justement à la première mouture du projet de l'interlocutrice. C'est pas du tout un procès-verbal de ce qui est dit. C'est en fait quelque chose qui, et on va reprendre la métaphore de la planète, est une tentative de trouver un autre centre de gravité, en quelque sorte, une autre gravitation. Bon, là, j'en dis beaucoup trop, je vais te laisser en parler, mais en fait, c'est ce qui m'a semblé à la lecture, en fait. Et justement, donc, le portrait Ding Dang Dong est numéroté comme étant le premier. Est-ce que, justement, c'est quelque chose qui, dans les projets de l'Institut, va être amené à se réitérer, et comment, avec qui, est-ce que le protocole va s'affiner, comment ça va se passer?
Alors il y a plein de questions dans tes questions, mais juste pour dire que par rapport à Anouk, qui était le premier portrait, parce qu'il y a aussi une question qui se pose avec Huntington, un peu plus qu'avec Alzheimer peut-être, c'est la nécessité de la clandestinité des personnes, parce qu'elles sont engagées dans la maladie relativement jeunes, et puis ça veut dire quand on est malade que autour de soi tout le monde est à risque, et ça pose des problèmes au niveau social, au niveau de tout simplement des prêts à la banque, les assurance, etc. Donc on est un peu tous obligés de se planquer, ce qui est aussi mon cas. Et Anouk n'est pas le vrai nom de ma maman. Et donc, en même temps, on voulait, pour pouvoir aborder ce mystère et le non pas le percer de manière agressive, mais l'instruire, quoi, et nous instruire au même moment. On voulait aussi aborder les personnages de ce pays-là, le Huntington Land. Et moi, j'ai voulu commencer par ma mère parce que c'est celle que je connaissais mieux avant, pour apprendre aussi la délicatesse nécessaire pour aborder d'autres personnes, ce que je fais aujourd'hui. Or, le portrait, c'était pas là aussi frontal, l'équivalent frontal de la question qu'est-ce que vous ressentez. C'est pas forcément, c'était surtout pas la tête de la personne et puis c'est tout. C'était là aussi un travail sur la délicatesse du monde, du milieu dans lequel ces personnes se trouvent et qu'elles fabriquent aussi, et l'harmonie à chaque fois évidemment unique qui est fabriquée par ces personnes-là, et la peintre Alexandra Compatissier qui est auteure de ces aquarelles, qui a l'habitude elle de faire des portraits frontaux parce que c'est son travail dans la presse, là était très intéressée par le projet justement d'un portrait en biais et complètement bougé comme ça, où elle a pris des photos un peu comme une reconstitution, mais aussi comme sur une scène de crime, en fait. Elle a pris des photos assez elle frontales, mais de plein de choses qui faisaient sens pour elle, de la trace d'Anouk, des traces d'Anouk, et puis elle les a transformées en peinture. Et puis moi, à côté d'elle, j'ai travaillé à des textes qui faisaient un petit peu le même travail, mais cette fois-ci puisés dans ma relation avec ma mère et mes sœurs et ma mère, donc une espèce de portrait de notre relation à elle aussi. Et alors juste pour, et après je passe la parole. Par rapport à la suite, oui, un deuxième opus de la série des portraits est prévu, cette fois-ci avec un changement de protocole. Ce sera le portrait numéro 2 d'un monsieur qui nous a énormément inspiré, car il avait une choré très flamboyante, et donc il va être fait ce portrait par notre danseuse et par Valérie Pillet, qui vont travailler à reconstituer comment cet homme a transmis énormément de choses dans la communauté Huntington, rien qu'en ayant la choré qu'il avait. C'est-à-dire que tout le monde s'inspire de lui maintenant, il est un peu comme notre maître à danser, et voilà.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas été peut-être très clair sur les forces en présence dans Ding Dang Dong, on y reviendra dans une autre partie de l'entretien, mais je voudrais juste terminer sur cette question de l'enquête, dans la mesure où dans l'interlocutrice, elle est posée dès la première phrase du premier chapitre, où est le beurre, le trouverons-nous ? Donc c'était une façon amusante, en fait, de rappeler qu'il y avait quelque chose à trouver.
Oui, vous avez mis le doigt sur une phrase très importante, parce que « le trouverons-nous » est la seule phrase où le « nous » est employé. C'est une question. Il s'agit de chercher, de trouver quelque chose ensemble. Alors, Le protocole de l'enquête, il est évidemment très intéressant parce que dans une enquête, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. On est obligé de regarder tout le monde de très près et de regarder très longtemps des détails. Donc le coupable, dès le départ, on sait qui il est, on sait qu'on ne sera pas arrêté, c'est Alzheimer. Mais ce qu'on va trouver, c'est la parole d'une femme qui avait à dire, qui avait quelque chose à dire. Donc on la trouve dans ses romans. Et puis l'enquête doit aboutir au moment où cette parole est, on va pas dire délivrée, mais où elle est compréhensible, où elle peut être donnée à un lecteur. Alors, moi, j'ai pas fondé de collectif comme Émilie. Je trouve ça formidable. Enfin, cette entreprise ding dang dong, la façon dont ça se ramifie, dont les gens se rassemblent. Mais ça me soulage beaucoup l'idée que la parole d'Odette maintenant soit dans un livre et passe à d'autres personnes. Parce que quand on écrit, on se confie à un livre, on se confie bien entendu selon ce qu'autorise le lecteur intérieur qu'on porte en soi et qui est assez strict quant au but littéraire qu'il veut atteindre, mais on se confie franchement au livre. Et quand arrivent les lecteurs, on est absolument stupéfait, parce que ça, on ne l'imaginait pas. Enfin, que tout d'un coup, ils viennent vous parler d'Odette, qui donne l'impression qu'ils ont une idée de qui elle est. C'est extrêmement émouvant et troublant. Voilà. Donc, je pense que voilà, ce qui était à trouver, c'était la parole d'une femme qui avait quelque chose à dire, et que le livre est construit pour approcher ça.
Peut-être justement, on va réécouter encore une fois sa parole pour un deuxième temps de lecture.
Cette fois, je vais lire des passages d'Anouk, du coup. Et puis après, encore autre chose. J'ai du mal à écrire ma mère, car je n'ai jamais pensé qu'une telle entité, ma mère, existait. Ça a toujours été et ça continue d'être notre mère, grâce aux nous trois, conformes avec mes sœurs, qui est ton œuvre. Il n'y a pas de ma qui tienne avec toi. Auprès de toi, le temps n'est plus une flèche. C'est une nappe paisible qui s'étend lentement tout autour d'un point central. Et ce point, c'est toi, bien sûr. Pénétrer dans cette zone en forme de lac de montagne, ce n'est pas rien. Mais une fois qu'on y est, on y découvre tant de choses. La vie qui anime ses profondeurs, les reflets du ciel, les variations de couleurs quand le vent ride sa surface, et puis ses habitants dont chacun est en train de créer son propre lac de montagne. D'autres fois, la patience disparaît. Elle a soudain quitté la cohorte des éléments qui composent ton atmosphère. La météo est en train de tourner, la charge magnétique se polarise différemment, on sort nos parapluies mentaux, qui ne sont pas des parapluies, mais des arabesques, il va falloir te suivre. L'énergie que tu contiens est sans doute aussi mystérieuse pour toi que pour nous. Tu la découvres tandis que tu nous la montres. À ce moment-là, toi et nous, on est ensemble et séparés en même temps. Tu nous apprends à ne pas avoir peur de ce qui est en train d'arriver. Ton moi, engagé dans sa métamorphose infinie, est le guide exigeant de tes trois filles, de nous trois, dans les passages inattendus et baroques de la vie. En chemin, tu nous transmets un don qui nous transforme, parce qu'il nous permet de parcourir l'inquiétant tracé des limites, avant de nous montrer comment les franchir dans les deux sens. Dans ce lieu étroit, instable, inconfortable des limites, les choses semblent d'abord n'être réduites qu'à leur seule intensité. Il nous faut du temps pour percevoir comment se mouvoir dans un tel endroit. Comment y circuler et comment se combiner avec ce qui se trouve là. C'est le lieu de la négociation perpétuelle, le lieu du passage entre les règnes, là où s'éprouve avec amour la connaissance de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Et puis je vais lire aussi des extraits de mon journal. 8 janvier 2025. Ma mémoire est aussi vaste et claire qu'un lac de montagne. Je peux enfin en témoigner. Mes prédécesseurs, eux, ne pouvaient pas raconter une telle chose, car on comptait uniquement sur leur appareil phoniatrique, comme si la communication, ce n'était qu'une affaire de glotte, de langue, de souffle. Heureusement, on progresse. 3 septembre 2028. On m'a coupé les cheveux très courts. J'ai pleuré pendant plusieurs semaines la perte de ma chevelure, avant de réaliser tout d'un coup que d'avoir le crâne d'un petit garçon avait des avantages considérables. La moindre caresse sur mes cheveux courts est extraordinaire. Comme si le bout de chaque cheveu fraîchement coupé, à quelques centimètres seulement du crâne, était un capteur à lui tout seul, capable de transmettre le plus petit frôlement jusque sous l'intérieur de ma boîte crânienne, traversant la dure mer au nom si triste, pour se poser sur la membrane extérieure de mon cerveau exténué, comme si c'était un fruit du soleil, une pêche, je dirais. 25 juin 2029. Quand mes petits-neveux viennent me voir, ils me demandent parfois de le faire, histoire qu'on rigole. Ils retirent le bouchon de ma gastrostomie pendant que j'inhale une bouffée de leur cigarette électronique. Ils obstruent ma bouche avec le bavoir et hop, ça fait un beau jet de fumée vaporeuse que je recrache par mon trou supplémentaire. La vie augmentée. Parfois, je fais l'inventaire de ceux qui travaillent pour moi. Ça fait 42 personnes. Bien sûr, ce n'est pas moi qui les paye tous directement. Moi, je paye l'établissement, environ les deux tiers. Et l'État paye le reste. Je paye aussi tous les à-côtés auxquels je n'ai pas voulu renoncer. Je crée de l'emploi. 17 mai 2031. La vie est très, très lente. Longue, lente et longue. Le badinage est devenu impossible. Je préfère les conversations de fond, philosophiques, les visions, les concepts. S'enfoncer lentement dans un concept est l'une des choses que j'apprécie le plus désormais, mais c'est rare qu'on m'en serve. Je m'arrêtais là.
Ce n'est pas parce qu'Odette n'a presque plus de mots qu'elle n'échange pas. Maigret, Imogène, Rebecca, Hercule, Miss Marple, avec eux, le courant passe. Je cherche cette aide qui reste. Dans le passé, d'amitié, de coquetterie, de travail, de famille, un fourniment de tête que chaque acte brasse en une seule. Se sont-elles combattues entre elles à qui serait le chef ? Je ne sais pas. Il reste la tête écrivante et lisante en haut de liste. Ça me rend fière d'elle, reconnaissante, comme c'est bête, si tard rencontrer cette tête-là. Je ramasse de ses livres ce que secoue sa tête. Des cosmétiques, un soutien-gorge, des plaintes, des heures de la journée, la peur de ne pas trouver de nourriture, l'attente. Je trouve les romans noirs, collection Le Masque. La folie lui permet, elle, s'y enfermer, un désir nôtre, écrire. J'irai farcir ma caboche avec cette pensée. Il faut crocheter avec soin toutes les portes, même si on sait qu'aucune ne permet d'échapper. La tête qui dépasse est la tête écrivante, lisante. La simplicité des rapports entretenus avec les personnages de romans, leur répondre en confiance. Avait-elle cette spontanéité, Odette, pour entrer en contact dans la vie ? Lisant ces 23 livres, l'illusion entre nous d'une rencontre qui serait dépouillée du rapport mère-enfant au profit de ce caractère de liberté respectueuse qu'il y a dans la relation auteur-lecteur. Engager avec elle la rencontre comme avec une inconnue. J'ai peur de ne pas savoir faire preuve d'assez de délicatesse. À 4h10, très mal dans tout le corps. Très très mal à la tête, au corps. Il me brûle mes deux pieds, c'est vrai. Mal aux deux jambes, très mal au derrière, mal à la cystite, mal aux deux pieds qui brûlent aux deux yeux, tout est vrai, il est 4h20. Ce temps où sucer son pouce à cause de la peur, mordre sa paume à cause de la colère, celui des solutions pas tant simples qu'à portée de main,
Il trépigne en coulisses, derrière yeux, dos, mains, pieds. Plainte somatique, disent de ses douleurs les blouses blanches. Le réconfort pour ceux qui l'accompagnent, comme on dit, de la certitude d'un suivi médical régulier, d'une douleur médicalement prise en charge, certes. Un tel charroi de peine pourtant. Si tu avais davantage parlé avec Odette, aurait-elle moins perdu les mots ou pas eu besoin d'aller les chercher dans toutes ces histoires de meurtres, de détectives, d'enquêtes? C'est très intelligent et plein d'initiative de sa part d'aller s'adjoindre à un détective pour récupérer les mots dont elle a besoin.
Oui, donc là, en fait, on voit assez bien le deuxième point de contact que j'avais relevé entre vos deux démarches. C'est ce rapport à la fabulation, en fait, de se créer vraiment un dispositif fabulatoire qui permet d'aller plus loin et d'aller à l'encontre d'eux. C'est-à-dire, on est diagnostiqué comme étant porteuse du gène de la maladie de Huntington. On est face à un savoir médical qui est impuissant à nous aider à vivre, à nous aider à faire quelque chose en fait de ce diagnostic et de cette malédiction, qui un diagnostic qui devient une malédiction puisqu'il n'y a rien à faire, la médecine est impuissante. Et là, on fabule un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. On trouve dans des livres des notes un peu éparses, une sorte de puzzle identitaire qui a du mal à se joindre, quelque chose qui voilà, et de l'ordre d'un récit de soi complètement fragmentaire, fragmenté, très, très pauvre au niveau du vocabulaire, au niveau de la structure. Et là, on fabule une mère écrivain. Et donc, c'est finalement dans ce rapport à la fabulation que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez commun entre vos deux démarches. Pour moi, en fait, l'interlocutrice répondait à cette série de questions qui sont dans le manifeste de Ding Dang Dong, que je vais vous lire. Qui sont en quelque sorte, comment on pourrait les appeler, les pistes de, c'est ça, les pistes de travail. Comment penser quand la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère? Comment penser quand la pensée s'altère alors que la pensée s'altère? Comment écrire, comment penser quand la pensée s'altère? Comment écrire, comment penser quand la pensée s'altère alors que la pensée s'altère? J'aimerais bien qu'on en dise un petit peu plus vraiment sur cette espèce de pas de côté en fait qui pour moi vraiment est une sorte de piste de décollage vraiment qui est justement cette fabulation d'une œuvre complète d'un auteur inconnu en quelque sorte qu'on aurait exhumé comme ça d'une bibliothèque et cette fabulation d'un institut très sérieux de coproduction de savoir et d'ailleurs qui sont les personnes qui font partie de cet institut puisqu'on n'a pas été très très clair là-dessus.
Alors, l'Institut a été fondé par environ 17 personnes. C'est un collectif de professionnels du champ des sciences humaines et des arts, des praticiens, qui étaient intéressés par ce pari de fabriquer de la pensée à partir de cette situation apparemment dramatico-désespéré qui était Huntington. On a créé avec Valérie Pillet, on est allés toutes les deux voir une série de personnes comme ça, des philosophes, des historiens, et puis des artistes, parce qu'on avait besoin justement on sentait qu'on avait besoin de faire des pas de côté méthodologiques et que c'était pas en allant dans les académies classiques qu'on allait arriver à faire ces pas de côté dont on avait besoin et que les artistes allaient nous apporter ça, entre autres choses. Et donc, il y a toute une... Bah, sur le site de Ding Dang Dong, vous avez la liste de toutes ces personnes. La marraine du collectif, c'est Isabelle Stengers, qui était celle qui nous a aussi... On avait déjà l'idée de fabuler, de toute façon, un institut, au fond de dire, bah, puisque quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire de partir en enquête sur ce phénomène mystérieux qu'est Huntington, puisque ça n'existe pas, il faut l'inventer, et c'était la création de l'Institut, ce geste fabulatoire. Mais il se trouve que ce n'est pas pour rien qu'Isabelle Estingers est la marraine du collectif, parce qu'elle-même travaille beaucoup sur ces gestes fabulatoires. Et elle dit cette chose qui est très importante à la base de tout ce travail, c'est créer les possibles contre les probables. Et dans le cadre d'une maladie comme celle d'Huntington, ou évidemment comme Alzheimer, la médecine est autour du coup, les usagers qui ont suivi la médecine quand elle dit des choses, parlent en termes de probabilités, qui sont des probabilités qui assignent énormément ce qui va se passer, parce que c'est très difficile de dire bah non, vous avez tort, etc. Alors qu'elle se base sur une pratique de science basée sur les preuves et une pratique de statistique et de moyenne qui en fait correspondent à personne, en fait. Et pas une seule personne qui correspond typiquement à une moyenne, par exemple. Et donc, c'est ça le champ des probables, des probabilités. C'est quelque chose qui ferme énormément dans le cadre d'Huntington, qui ne fait que proposer une vision évidemment désespérante. Alors que les possibles, c'est pas mettre un joli vernis sur un chiffre désagréable à lire, c'est véritablement aller chercher là où il y a de l'inventivité dans les situations et commencer à s'instruire à partir de ça. Et c'était ça la fabulation. Et du coup, évidemment, pour moi, la littérature étant, mais il n'y a pas, absolument pas que la littérature. Hein, au travail de la fabulation, il y a aussi le cinéma, il y a aussi le spectacle vivant, il y a aussi la philosophie. Mais bon, moi, mon truc, c'est l'écriture. Et donc, c'était évidemment, du coup, mettre tout mon travail à ce service-là de créer ces fictions-là, qui ne sont pas de l'invention dans le sens de on va inventer des histoires comme ça, non, c'est partir du réel et d'en proposer des fables qui puissent changer la donne de ce à quoi on est confronté. Et de changer le réel du coup du problème. Et c'est pour ça que l'Institut de coproduction, il fabrique vraiment des choses, des vraies choses, des recherches véritables, des objets qui aident les gens, et il commence à avoir ses effets. Et moi, en tant que personnage, quand je vais rencontrer des malades, quand je vais prendre la parole dans des colloques, des choses comme ça, de médecine, je change des petites choses. Quand nos productions vont bousculer la manière dont on annonce la maladie à des gens qui ne sont pas encore du tout malades, on change aussi des choses. Donc, c'est pas... Et je crois que Geneviève aussi va raconter par rapport à la fabulation de sa mère en écrivant, c'est pas une invention totale, c'est une façon de considérer le problème, en fait, de changer les donnes du problème et du coup d'agir sur lui.
Ça me fait penser à une phrase que Homer met dans la bouche d'Ulysse dans l'Odyssée, qui s'applique à tout ce qu'on est amené à rencontrer au cours d'une vie, et qui dit « S'il m'échoue un malheur, qu'il m'advienne ». Alors j'ai longtemps été fascinée par cette phrase, « qu'il m'advienne » au sens de l'aventure. Voilà, c'est-à-dire que quelque chose va arriver, mais peut être attendu, mais ne prendra pas la forme qu'on croyait, qu'on imaginait, ou qu'on ne savait pas imaginer, va être différent. Ça va advenir et non plus être du côté de l'échec. Alors la fabulation, pour aborder donc ces documents que j'ai trouvés, c'était, puisque j'étais en face de documents qui disaient bon, ce qu'on appelle une démence, même si le mot me paraît bien excessif et mal choisi, c'était de jouer de mon côté la déraison. C'est-à-dire la déraison, c'était un pari un peu fou, absolument déraisonnable. Ma mère est un écrivain et c'est un écrivain génial, elle a trouvé une idée de génie, vraiment, puisqu'elle a réussi à écrire avec les moyens qu'elle avait dans ses livres. Donc qu'elle soit un écrivain, quand on lit les phrases qui notent l'heure à laquelle faire pipi, on peut en douter. Mais finalement, elle a été la pièce dans laquelle des phrases d'elle ont été intégrées. Bon, a tourné en France, tourne à l'étranger, tourne toujours, sera bientôt joué à New York. Et puis le livre qui a été travaillé avec l'éditeur du Nouvel Attila, qui est ici dans la salle, lui rend tout à fait justice, d'abord parce qu'il y a ces facsimilés qui me paraissent très impressionnants, et puis le contrat a été signé pour trois personnes, les auteurs de romans policiers, qui avaient des extraits, Odette Peigné et moi-même. Donc, de fait, elle est devenue un écrivain. Donc, cette proposition folle, enfin, en tout cas, déraisonnable que je faisais, est advenue. Voilà, elle m'est échouée et elle est advenue. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, il fallait qu'il y ait une proximité entre nous, il fallait que je sente quelque chose de juste pour parler de cette maladie. Donc, j'ai choisi une écriture qui devait reproduire une forme de tangage. Alors, vous avez sans doute... Bon, j'en ai pas lu très long, mais vous avez pu remarquer que c'est des petites séquences très brèves qui ne se situent pas toujours au même moment de la maladie, qui tantôt sont une petite réflexion, tantôt un peu méditatif. Quelquefois, il y a des poèmes extrêmement brefs, mais c'est des petits morceaux, des petits fragments, comme l'écriture d'Odette est fragmentée et passe d'un livre à l'autre, d'un sujet à l'autre. Là, c'est des petits fragments qui vont se poser et... Il faudra un petit peu enjamber quelque chose pour passer de l'un à l'autre. C'était absolument impossible d'accompagner cette forme-là par un récit qui aurait été trop linéaire, trop construit. Il fallait que dans le récit lui-même, il y ait ce tangage pour faire entendre peut-être quelque chose de juste. Enfin, j'espère.
Et là, justement, en fait, cette fabulation permet de boucler sur ma première question, c'est-à-dire qu'à un rapport mère-fille, vous substituez un rapport lectrice-auteur. Et c'était aussi une façon de faire justement un pas de côté dans cette relation à votre mère qui a dû être vraiment douloureuse, j'imagine, un pas de côté, mais aussi une autre focale en quelque sorte.
C'était beaucoup plus facile à partir du moment où j'ai pu nous situer tous deux avec un amour commun. L'amour de la lecture, ça m'a rapprochée d'elle et là je pouvais y aller sans crainte. Il n'y avait pas de toutes ces choses qui se passent entre une mère et une fille et qui se règlent ou qui ne se règlent pas. Enfin, non, extrêmement banal. Donc c'était beaucoup plus facile. On avait, je pense que les livres sont des amis et là ils se sont montrés des amis jusqu'au bout et de puissants amis, même de façon insolite. Donc la confiance profonde que j'avais dans le livre, ben, je savais que ma mère avait ce type de confiance et qu'on pouvait fusionner dans cette confiance-là. Donc ça m'a beaucoup aidé de pouvoir faire ce petit pas de côté. Ça m'a permis de d'avoir un amour en commun qui nous rapprochait, qui permettait de... Voilà, une distance qui était nécessaire pour l'écriture, pour éviter de tomber dans quelque chose de trop biographique.
Et puis c'était également une sorte de masque qu'elle vous présentait pour reprendre le nom de la collection, c'était...
Oui, alors c'est vrai que le nom de cette collection, le masque, a une plume qui troue l'orbite d'un masque noir, c'est exactement ça. Enfin, des choses écrites dans ce roman policier qui tout d'un coup disent une vérité. Mais c'était une richesse en commun et une amitié en commune et quelque chose de profondément réconfortant, je crois. Ce qu'on voit ici, c'est que même dans le creux de la maladie, les choses les plus importantes demeurent. Enfin, le goût de la lecture, le goût de plaire, le goût d'être coquette, et qu'en fait ça demeure. Donc on peut penser que les livres ont un pouvoir d'accompagnement encore beaucoup plus grand qu'on le croit.
Si je peux compléter ce que vous avez dit par rapport aussi à ce que vous dites sur ce livre de l'interlocutrice, c'est aussi que Odette souligne aussi des passages ou des mots dans le texte. Et là, on sent que si on regarde ce qu'elle écrit, c'est souvent des choses qui sont répétitives, qui peuvent apparaître un petit peu pauvres au niveau du vocabulaire. Mais en revanche, ce qu'elle souligne, c'est au contraire, évidemment, c'est des mots du monde. Et c'est là où on se dit que les livres, la littérature peuvent avoir ce rôle-là aussi d'aider très concrètement à cet endroit-là les personnes qui peuvent plus s'exprimer comme avant et deviennent un dictionnaire, ou je ne sais plus comment vous dites, vous avez une très très belle une encyclopédie, je ne sais plus comment vous dites.
Une entrée de secours. Oui. Une entrée de secours dans la vie. Mais peut-être un dictionnaire aléatoire.
C'est très beau, un dictionnaire aléatoire. Et que c'est aussi un des problèmes qui est très embêtant avec Huntington, c'est le fait qu'on n'ait plus accès aux nuances. On a accès dans nos têtes, mais on ne peut plus les exprimer comme telles. Et dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie tout court, de plus pouvoir dire les choses avec nuance est une forme de maltraitance, en fait. C'est extrêmement inconfortable, c'est même violent, et ça génère de la violence. C'est très souvent cette difficulté de ne pas pouvoir dire les choses nuancées, sans être super subtiles, juste un peu nuancées, fait que ben, c'est là qu'on crie ou c'est là qu'on tape. Et je trouve ça très beau dans ce livre, que, enfin, en effet, l'invention d'Odette de pouvoir pallier à ce manque en soulignant ce qui existe dans le monde des mots.
Alors, il me semble que même pour toute personne qui n'a aucun... Bon, dans la vie courante et quotidienne et banale, la littérature, c'est ça aussi, à savoir qu'on est toujours, on a toujours beaucoup de mal pour exprimer les nuances des choses, pour les repérer, pour les identifier. Et tout d'un coup, on ouvre Proust ou bien on ouvre Beckett. Et alors là, on est, bon, on est un peu... Ça en est un peu chaos, quoi, mais c'est vrai. Enfin, voilà, ils ont su voir, ils ont su entendre, ils nous le disent. On est un petit peu, en fait, comme si d'un coup notre langue maternelle était une langue étrangère. C'est-à-dire, nous-mêmes, on peut exprimer très peu de choses, mais on peut très bien comprendre ce que disent les grands écrivains, quoi, parce qu'ils nous révèlent une sensibilité, une observation du monde, une connaissance des autres qui est absolument stupéfiante, qu'on aimerait avoir, mais dont on prend petit à petit à leur contact quelque chose, par osmose. Il y a beaucoup de choses qui se passent ainsi par osmose.
Peut-être que quelqu'un du public souhaiterait intervenir. Je pense qu'on peut, il est temps d'ouvrir la discussion un peu plus largement.
Oui, bonsoir. Alors, moi, j'avais une question pour Alice Rivière et puis ensuite pour vous, mais je vais les poser l'une après l'autre. J'ai beaucoup aimé vos lectures et j'ai été extrêmement troublée par la dernière, c'est-à-dire quand vous parlez 2028-2031. Et là, ça a été violent parce que moi, je ne suis pas porteuse d'une maladie qui risque de me tomber dessus, mais je vieillis. Et je m'imagine dans 20 ans ou dans 30 ans vivante, mais en forme. C'est-à-dire que je m'étais jamais, j'avais jamais eu l'idée de me représenter plus tard vieille, décatie, tout ça. Et je trouve que le fait que vous l'ayez fait, écrit, ça m'intrigue énormément. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre par rapport à ça. Et après ça, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous envisagez d'écrire sur autre chose que la maladie d'Huntington ? Parce qu'au début, vous avez dit que justement, vous n'en vouliez pas de ça. Et puis après, vous êtes rentré dedans et vous êtes vraiment dedans à tel point que vous vous projetez plus tard avec cette maladie. Et là, par contre... je ne sais pas si elle va vous arriver, vous en êtes sûr ou... Oui, d'accord. Et donc, est-ce que vous allez toujours écrire dessus ou est-ce que vous pensez écrire sur autre chose ? C'est une question difficile, je ne sais pas si vous pouvez répondre.
Non, je n'ai pas de réponse à cette question parce que j'écris pour voir. Alors, bon, ben, on verra bien où ça va me mener d'écrire tout ça. C'est sûr que je vais la développer, donc c'est... pour ça que j'écris un journal du futur, j'explore, c'est vraiment comme une exploration. De la même manière que je vais faire du terrain dans les établissements où des personnes vivent avec Huntington ou je fais du terrain, et ben là je fais un autre type de terrain qu'un terrain d'une forme de possible qui est l'avenir grâce aux explorations que je fais auprès de personnes en stade très avancé de la maladie et puis aussi de ma mère. Donc c'est pour ça que je me figure comme ça. Ça se trouve, c'est absolument pas ça qui va arriver. C'est peut-être je me ferai écraser par un camion avant d'une part ou d'une autre maladie ou autre chose. Mais d'inventer un possible, c'est une façon de travailler à rendre habitable aussi cette situation et apprendre. Et puis c'est oui, des manières de vivre cette histoire de manière avec une consistance belle et agréable aussi. Ce qui est le cas, parce que quand je discute avec des gens qui sont très malades, ils me disent très souvent qu'ils se sentent bien, en fait. Et donc, c'est ce mystère-là, cette énigme, parce que les médecins disent « Non, mais ils disent ça parce qu'ils ne se rendent pas compte. » Ça s'appelle la nosognosie en médecine. Ça veut dire le fait de ne pas se rendre compte qu'on a des symptômes. Sauf que quand ils vont mal, ils font tout péter. Je veux dire, littéralement, ils font... Ils, ils, brûlés, ils hurlent, etc. Donc quand ça va mal, ils savent le dire. Donc quand ils disent que ça va, c'est pas pour, parce qu'ils sont, ils sont nosognosiques, c'est parce qu'ils se sentent bien. Mais moi, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais écrire, être déportée de tout ça, écrire sur les artichauts, je veux dire, et ça sera très bien. On verra bien.
Alors j'ai lu votre livre, Madame Peignet, je l'ai beaucoup aimé, et alors moi je l'ai pas comment compris ou saisi exactement comme vous le dites, c'est-à-dire que j'ai pris ce livre comme un livre d'amour, comme une lettre d'amour quand on écrit, voilà, un livre d'amour à votre mère. À travers effectivement bon, ce qu'elle a écrit dans la marge des livres des policiers, sachant que quand même la rencontre, si j'ai bien compris, elle a eu lieu après son décès, parce que les livres vous les avez trouvés après. Donc quand elle était malade et vivante, cette rencontre n'avait pas lieu, ou avait lieu autrement, ou c'était plus difficile. Et là, vous avez dit à plusieurs reprises, j'ai pu avoir avec elle une relation de lecteur-auteur, etc. Mais c'était post-mortem, finalement, vous n'avez pas pu le partager avec elle de son vivant. Et c'est en ça que je trouve que... Enfin, moi, j'ai été très touchée par cet acte d'amour que je trouve être ce livre. Et j'ai été, je dois dire, beaucoup plus saisie par ce que vous écrivez sur... les mots qu'elle a écrits dans les marges et sur les romans policiers, que par les mots eux-mêmes, si vous voulez. C'est le sens que vous leur donnez, moi, qui m'a touchée. Et c'est tout cet amour très, enfin, que je trouve très, très discret et en même temps très intense qui est là. C'est comment garder la trace de nos parents morts et quelle dignité donner à leur mort. C'est un peu la question. Et quelle dignité donner à leur fin de vie. C'est un peu, je crois, enfin, dans tous les cas, la question qui entre en résonance avec celle que je peux me poser.
Moi, je crois que vous avez tout à fait raison. Quand vous parlez d'une lettre d'amour, ça me fait très plaisir que vous le lisiez comme ça. Je suis d'accord avec vous.
Si personne d'autre n'a de questions, j'en aurais éventuellement une, en fait, dans la mesure où justement l'expérience de la maladie a une position assez intéressante et qui a vraiment été mobilisée par Ding Dang Dong, d'être à la fois vraiment au cœur de l'intime, puisque c'est un rapport à son corps, un rapport à sa souffrance éventuellement, un rapport à quelque chose qui est vraiment incorporé. Mais cette incorporation de quelque chose devient le foyer d'un collectif, en fait, en quelque sorte, d'une communauté de malades. Et d'ailleurs, il y a d'autres collectifs d'usagers de la maladie, tels que vous les nommez. Il y a le collectif des entendeurs de voix, par exemple, sur des questions plutôt de santé mentale. Il y a des collectifs de malades, on en trouve chez les gens atteints par le sida, chez les usagers de drogue, les gens qui ont développé une addiction à quelque chose. Et du coup, cette parole du malade, ou cette espèce de description embarquée, en fait, dans le corps même de la personne qui l'énonce, est de fait une sorte de conscience collective, en quelque sorte. Et du coup, ma question aurait été, est-ce que justement cette pièce de théâtre a été présentée à des familles de personnes atteintes, à des personnes atteintes elles-mêmes, quelle a été finalement la répercussion, enfin, au-delà du fait que Odette Peignet est désormais une auteure à part entière, quelles a été les répercussions un peu dans le réel, disons, dans une sorte de sociabilité ou de collectivité ou de commun, en fait, autour de cette question-là.
Alors, Odette Peignet, par rapport à la pièce de théâtre, moche. C'est-à-dire moche de moche. C'est-à-dire que finalement, dans la pièce de théâtre, c'était une malade d'Alzheimer et tout le monde était affligé parce que c'est tragique, ça fait mal, bien entendu, et ça fait peur à tout le monde. Voilà, c'était exactement pas du tout ça ce qu'il fallait montrer. Donc, pour la pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre intéressante, bien écrite, bien jouée, et voilà, qui parle de la maladie, mais qui parle de la maladie en l'enfermant, en renfermant la personne à l'intérieur de sa maladie, en l'enfermant. Donc, c'est pour ça que je n'en ai J'en étais très, très, très déçue, même si c'est une bonne pièce, une pièce bien écrite. Par contre, oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, autour de groupes comme France Alzheimer, maintenant qu'on s'intéresse de plus en plus à la parole des malades. Et j'ai eu la surprise, alors là, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Il y a une gérontologue qui m'a écrit une lettre en me demandant si elle pouvait reproduire, utiliser les facsimilés que le nouvel Attila a mis à l'intérieur du livre. Et alors, dans sa lettre, elle me disait « Si vous m'en donniez l'autorisation, nous serions au moins deux à penser que nos malades... » Et alors, moi, qui avais un manque de nous énorme pour transmettre ma mère, puisque bon, je suis enfant unique, enfin, voilà, y a peu de personnes qui ont connu ma mère qui sont encore existantes. Alors là, entrer dans un « nous », alors j'ai pensé au collectif Ding Dong Dong, ça m'a fait un bien formidable, quoi, ce « nous » qui arrivait... Mais oui, bien sûr, ça allait beaucoup mieux. C'était déjà, les choses étaient déjà divisées par deux, et relancées et adoucies.
Et sur la réception de Bon baiser de Huntington Lodge, par exemple, la pièce de théâtre qu'a écrite Émilie et qui a été jouée récemment, enfin, même si tes livres ont de l'écho et servent en quelque sorte de manuel pratique, puisque, et notamment à Casma, tu mets en place des séances de travail, des workshops, des ateliers, des choses qui impliquent les premiers concernés, mais par ces formes comme ça, qui élargissent un petit peu la réception de tes travaux. Qu'est-ce que ça provoque, en fait?
La pièce de théâtre, c'est, bon, elle n'a pas encore énormément tourné, elle vient de se jouer en région parisienne, et il y avait en tout cas des usagers qui sont venus la voir, donc, c'est-à-dire des personnes concernées par Huntington, et qui étaient très, en tout cas nous ont fait des merveilleux retours, et qui disaient que ça leur faisait du bien, donc c'était très... C'est évidemment l'effet recherché, donc quand on a ces retours-là, c'est merveilleux. On a des retours des usagers vraiment très positifs et directement, donc c'est assez agréable quand on travaille d'avoir des effets comme ça. Ceux qui se manifestent moins, c'est les professionnels du soin. Notre rapport de recherche le plus important maintenant circule un petit peu de plus en plus chez les soignants, pas encore vraiment chez les médecins, ça sera le dernier bastion, mais on travaille justement à la forme d'adresse aux médecins, comment faire pour qu'on les touche avec notre travail. Donc on a différents types de choses. Là, par exemple, le rapport va être transformé en livre pour pouvoir être distribué à plus de monde possible, au plus de monde possible. Mais pour les médecins, on a par exemple créé une série de vidéos qui sont les vidéos du docteur Marbeuf, avec le docteur Marbeuf ici présent, où il s'agit de montrer, de rendre sensible aux soignants et aux médecins la façon dont ils pourraient s'approprier les résultats et les travaux de Ding Dang Dong. Et donc, il y a une espèce de saga qui est en cours avec le docteur Marbeuf. Il y a deux tomes de cette saga qui existent, où on le voit pivoter, parce que les pas de côté en médecine, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux des écrivains, quoi. C'est pas... Voilà. C'est des pivots comme ça. C'est ça. Et très pivot. Alors, on montre comment, avec le docteur Marbeuf, on montre comment il pivote doucement, mais quand même, je veux dire, la deuxième vidéo le montre en train de dialoguer avec une voyante qui est donc spécialiste des mauvaises nouvelles, et qui il décide de l'intégrer à son équipe de son propre institut. Donc ça, quand même, il a fait du chemin. Et donc ça, c'est une manière de toucher les médecins. Et puis, par exemple, pour ce qui est de la pièce de théâtre, on va en fabriquer une forme performative beaucoup plus légère, et pas une pièce en tant que telle, mais plutôt une intervention performée qu'on va faire dans les congrès médicaux. Donc c'est une façon de faire déraper un peu les conférences classiques. Donc voilà, on cherche, quoi, ce genre, justement, comment toucher ce public-là.
Oui, je voulais rajouter, quoi, je voulais peut-être prolonger ce qu'on disait là, pas en tant que docteur Marbeuf, pour le coup, en tant qu'Olivier Marbeuf. Non, pour dire, tout à l'heure on parlait aussi de la manière dont vos travaux sont. Sébastien parlait de leur réception auprès des personnes qui sont atteintes de ces maladies. Il me semble que l'opération que ça fait est d'une autre nature, parce que j'ai envie de dire le fait d'être informé de l'existence de l'Alzheimer, qui est un peu plus connu que Huntington, bon, c'est une chose qui existe. Ce que l'opération qui est proposée, je trouve, dans le texte vous avez réalisé, pour moi, c'est plutôt faire en sorte que ça nous parle et ça nous regarde. Donc, du coup, la notion de d'être concerné par, absolument pas sur sur une dimension, je dirais, morale, coupable, mais dans un rapport existentiel, ça nous parle, ça parle de quelque chose qui est du nous. Parce que dès lors que selon ces fragments de langage qui rejouent des relations avec une autre langue, c'est le nous, les humains, qui parlons, qui pensons, qui nous rappelons, qui écrivons. Et du coup, il y a une forme, et je crois qu'Huntington, c'est aussi une des opérations qu'a réalisé Dinding Dong, c'est créer une certaine forme de familiarité. Alors que, bon, évidemment, avec des maladies qui sont particulières ou parfois rares, même si elles sont quelque part menaçante, on n'a pas ce rapport de familiarité. Au fond, une forme de proximité, c'est une partie de nous qui est là-dedans. Et vous parliez de ce nous, je pense qu'il existe à la fois dans le fait que des gens vont trouver des alliés à l'intérieur d'une maladie et selon la position de soignant ou de personne qui atteint cette maladie. Mais au-delà de ça, on l'avait déjà parlé aussi avec Ding Dang Dong, je crois que c'est trouver plus largement des alliés dans une manière d'être aujourd'hui. Je l'ai dit aussi souvent à Émilie, je pense que le champ des pratiques alternatives liées à la santé, etc., renseigne beaucoup les difficultés qu'on a dans le champ de la culture. Et puis d'autres collègues dans d'autres domaines aussi pareil. Quelque part, on est obligé aussi d'essayer de se réfléchir aussi dans une forme d'anormalité, parce qu'on est à la recherche de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on voit bien que ces situations de anormalité nous amènent aussi à un endroit où on doit aller chercher de façon les fameuses personnes valides ou la fameuse société qui va bien, qui va donc pas très bien, doit donc essayer de trouver des solutions paradoxalement à l'intérieur de ceux qui se sont plongés dans cet abîme-là de pas être dans la normalité. Et c'est vrai que moi je trouve que ces textes-là quelque part nous rapprochent d'une chose qui nous est nécessaire, qu'une chose qu'on doit pouvoir explorer. Voilà, me disait en se pensant peut-être quand on sera vieux et grabataire, parce qu'on sera vieux et grabataire, ça c'est le seul truc dont on est sûr, quoi. Donc ça, comme c'est me disait, on est presque sûr qu'à la fin ça se finit mal, quoi. Donc quoi qu'il arrive, cette espèce de relation à ces questions-là, elles sont, je trouve, nécessaires, et d'autant plus nécessaires là pour le resituer où on est nous, c'est-à-dire plutôt en Occident, que c'est un vrai impensé de nos sociétés. On n'arrive pas du tout à travailler avec ça. On travaille pas avec nos morts, on travaille pas avec nos maladies. On cache tout ça comme si ça n'allait pas arriver. C'était pas une chose à penser, une chose à travailler. Du coup, c'est vrai que cet espace de la possible perte, alors on va dire la déchéance quand on parle en politique, et devient un truc dramatique, quoi. Alors que de fait, c'est plutôt un élément métaphysique avec lequel il faudrait que nos sociétés travaillent, quoi. Oui. Et pour être en présence là, moi je trouve que le texte que vous donnez sur votre mère, ça la met, c'est avoir un rapport d'une présence aux morts dont on est assez peu capable en Occident, et donc dont on souffre, parce que c'est quelque part cette question de présence. Moi, j'ai une culture où c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun de le faire. La question de parler au présent des gens qui sont morts et de dire, tiens, tout à l'heure, je discutais avec un tel et c'est quelqu'un qui est mort. C'est pas du tout un truc extraordinaire. C'est plutôt une manière, justement, d'être dans une forme de consolation permanente de cette mort-là. C'est-à-dire que c'est pas non plus dire, il faut faire le deuil et revenir à la vie. Non, on reste dans un rapport avec la... Et je trouve que la littérature, là, fait cette opération-là de nous laisser en présence d'eux, et donc pas de l'idée de faire le deuil au sens qu'il faut en terminer, mais non, il faut pas en terminer, il faut être en présence des gens parce que on a besoin d'eux. Et là, moi, je trouve qu'on a besoin d'espèce de mystère un peu insondable, de territoire sur lequel ces deux femmes vont, quoi, parce que c'est comme pour moi des explorations aussi. C'est comme si quelqu'un va quelque part où nous on ne peut pas aller, va au fond de la mer ou va là, on a un rapport d'explorateur. Ce que je trouve que Ding Dang Dong a essayé aussi de jouer en renversant la question de la mutation vers une mutation. Vers une plus grande conscience plutôt qu'une réduction de quelque chose. Et ça, je trouve que c'est très précieux. Voilà, je vous remercie.
On est très habitué en littérature à ce que les morts nous parlent, parce que nos bibliothèques sont pleines de gens qui nous parlent. Et puis en littérature, on a aussi une tendresse pour des gens, ce qu'on appelle les fous littéraires, qui se partent dans des projets absolument déments, possible, même incompréhensible, et qu'il mène une vie entière avec un acharnement total, et on respecte beaucoup ça aussi, le fou littéraire.
Alors merci beaucoup à toutes les deux. J'ai été très touché de vous entendre. Je n'ai pas lu le livre Les Interlocutrices, mais je suis très touché par ces mots qui apparaissent dans les pages et qui reviennent un petit peu comme des signes de la personne qu'on aime et qui n'est plus là, mais qui est quand même là. Et ça me touche beaucoup quand la personne nous manque, et c'est une forme de retour et de présence. Et ce sont des mots qui sont, enfin, que j'entends un petit peu à la fois comme des paroles et comme de l'écriture. C'est une sorte d'intermédiaire. Et en vous écoutant, effectivement, je me demandais si vous aviez des frères et sœurs comme Alice. Et je pense aussi que comme vous avez perdu votre mère et votre grand-mère de la maladie d'Alzheimer, quelque part, forcément, vous devez réfléchir ou vous devez être assez sensible à cette possibilité d'être malade, et que ces mots, un petit peu, viennent un peu comme des présences, et cet amour partagé de votre mère. Et en écoutant Alice, je trouve très beau, enfin, la manière dont Alice a lu ses textes, cela me touche beaucoup. Et bon, je pense que tout ce que vous faites à Ding Dang Dong, enfin, ce qu'écrit Alice, est une façon aussi de mettre de la beauté, de l'art, dans la mort, parce que il y a aussi la mort dans la maladie de Huntington, mais c'est une façon de faire qu'il n'y a pas que de la mort et qu'il y a de la création et de l'écriture et de la parole aussi, voilà, du partage. Alors un grand merci.
Il y a beaucoup de drôlerie aussi dans les textes d'Alice Rivière. Moi, je trouve qu'il y a un humour formidable et une énergie d'humour qui à chaque fois me ravit.
Bonsoir. Moi, j'avais une question sur laquelle on touche depuis le début de cette soirée, mais j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Ça a concerné plus directement la façon dont on peut s'articuler le rapport profondément intime qu'on peut avoir à un parent et la froideur ou la dimension analytique que peut avoir cette forme d'enquête où l'on repart sur les traces de quelqu'un. Peut-être ça s'applique plus directement à votre livre, Madame Peignet, où il y a cette... Je ne l'ai pas lu, mais ce qui m'intrigue, c'est l'impression que vous... C'est comme si c'était une personne que vous aviez connue et que vous... Qui traverse une sorte de... une forme de transformation, de métamorphose, et que vous essayez de retrouver a posteriori. Et voilà, je voulais savoir comment ces deux pôles qui peuvent s'attirer comme se repousser entre une enquête comme ça à froid et un rapport vraiment intime, comment ça peut s'articuler dans le travail que vous menez?
Je pense pas que ce soit une enquête froide. Enfin, il y a beaucoup de moments où sont racontés le bouleversement. Je vais vous lire deux lignes. Je pense pas que ça soit froid. Maintenant, la fille haute de l'étagère, les romans policiers les uns après les autres. Tous n'ont pas été écrits par Odette. Ceux-là, elle en dénombrera 23. Et une folie, une passion se déclenche. Elle se dit, la voilà, dans un livre. Elle se dit, nous. Nous avons un point commun, un amour en commun, restitué. La fille est transportée de joie. Elle va la retrouver, Odette, la comprendre. Elle va vivre avec elle de ce corps nourricier qui est celui de la lecture. C'est le legs, la découverte laissée à votre intention au fond d'un coffre, comme dans les contes de fées. Certes, de quoi exulter. 4h10, j'en ai marre, drôlement, très mal cystite, tout est vrai, il est 4h10. Le soutien-gorge me serre fort, oui, et c'est moche. Toujours mal, cystite et jambes droites. Donc je crois que l'enquête n'est pas conduite de façon froide et qu'il y a souvent un aspect tragicomique dans ce livre, comme l'est la vie. La vie est tout le temps ce mélange des deux, qu'on le veuille ou non. Et oui, j'ai trouvé quelqu'un de différent à la fin de cette enquête. J'ai trouvé mieux. J'ai retrouvé ce que je connaissais de ma mère, des points communs qu'elle avait. À un moment, elle parle de moi, mais j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui était créateur, qui était inventif et qui, voilà, qui est devenu un écrivain. Donc, à travers cette maladie, je l'ai trouvé encore mieux. Voilà. Est-ce que j'ai assez répondu ?
Moi, j'avais une question qui s'adresse à vous deux. Alice Rivière, vous dites « je » quand vous parlez de votre mère, si j'ai bien entendu. Et vous, Madame Peignet, vous dites « elle ». Alors, c'est-à-dire que vous, Alice, vous vous situez comme « je, moi, Alice, parle de ma mère ». Voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous, vous dites « la fille, elle », etc. Vous parlez à la troisième personne. Et ça, moi, c'est une question.
En fait, j'emploie tous les registres. D'accord. C'est-à-dire que j'ai lu des extraits très brefs. Tantôt, je dis Odette. Tantôt, je dis ma mère. Tantôt, je dis maman. Très rarement, mais c'est choisi. Et puis, quelquefois, c'est la fille. Et quelquefois, c'est la lectrice. Ça fait partie du jeu de tangage de passer dans des petites facettes différentes. D'accord. De soi. Donc, ça change tout le temps. C'est fait pour.
Ça change aussi, c'est souvent je, fille de ma mère, et puis aussi toi, tu, le tu, dans Anouk, c'est tout à la, comme ça, la deuxième personne. Mm-hmm. Nous, parce qu'on forme un nous trois avec mes sœurs. Et puis le je, plus tard, quand je suis dans le journal du futur, et cette fois, c'est complètement je. D'accord.
Donc je pense qu'on peut continuer cet échange de façon plus informelle au bar qui est ouvert. Donc voilà, si je voulais vous remercier d'être venu, ça vous fait une bonne raison de rester. Ouais, à tout à l'heure.